nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il est peut-être difficile pour nous de nous faire une idée de la joie immense qui a dû inonder les cœurs du vieillard Siméon et la prophétesse Anne en voyant Jésus dans le temple, sachant que c'était enfin le Messie tant attendu qui était arrivé. Ils savaient que l'humanité entière attendait depuis 4000 ans son Sauveur, et plus particulièrement le peuple juif depuis le temps d'Abraham, avec toutes les prophéties transmises de génération en génération. Eux-mêmes, déjà avancés en âge, ils avaient médité depuis 30, 40, 50 ans et plus dans leurs prières sur ces prophéties et les figures mystérieuses contenues dans les histoires de l'Ancien Testament, qui toutes annonçaient le Messie à venir. Il y a une de ces figures dans l'Ancien Testament qui est plus particulièrement parlant, qui préfigurait plus particulièrement le mystère de l'incarnation, le Verbe de Dieu qui se fait chair, qui prend la nature humaine, c'est Jacob, et plus particulièrement ce qu'on appelle l'échelle de Jacob, une vision qu'il a eue. Alors, qui était Jacob? Il est un peu moins connu que des personnages comme Noé ou Moïse ou le roi David. Jacob était le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Vous savez que les Juifs, donc on lit dans l'Évangile les Juifs, et Jésus lui-même parle du vrai Dieu comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était les trois grands patriarches à l'origine du peuple juif. Abraham avait reçu la promesse d'être l'ancêtre du Sauveur. Il a transmis cette promesse à son fils Isaac, qui l'a transmise à son tour à son fils Jacob. Mais Jacob n'était pas le seul fils d'Isaac. Il avait un frère jumeau, Ésaü. Jumeau, mais pas identique. Au contraire, Jacob était doux et civilisé, alors que Ésaü était une espèce de grosse brute, poilu et sauvage. Et Isaac, sentant la mort s'approcher, s'apprêtait à bénir son fils aîné, pour lui donner cet héritage spirituel, cette promesse d'être l'ancêtre du Sauveur. Et il devait le donner à son fils aîné qui était Ésaü et pas Jacob. Mais Rebecca veillait. Rebecca, c'était la femme d'Isaac, la mère de Jacob et d'Ésaü. Elle savait que Ésaü était indigne. Et comme Isaac était vieux et aveugle, elle a couvert la nuque et les avant-bras de Jacob avec la peau d'un chevreau, puis elle lui a mis les vêtements d'Ésaü, et Jacob s'est fait passer pour son frère. Il a reçu la bénédiction à la place d'Ésaü avec la promesse d'être l'ancêtre du Messie. Alors, cette ruse peut surprendre ou même choquer, mais saint Augustin nous rassure. Il dit que ce n'était pas un mensonge, c'était un mystère. Et en effet, c'était la figure du grand mystère de l'incarnation. De même que Jacob est devenu en quelque sorte son frère Ésaü, grâce aux vêtements et à la peau que sa mère Rebecca lui a donné. De même, Jésus est devenu homme. Il a pris la chair semblable à celle des hommes pécheurs. grâce à la nature humaine que sa mère, la très sainte Vierge, lui a donnée. Et d'ailleurs, Jacob était quand même dans son droit pour prendre cette bénédiction, car quelques années avant, Ésaü lui avait vendu son droit à l'héritage en échange d'un plat de lentilles. Malheureusement, pour Jacob, Ésaü ne voyait pas les choses ainsi. Il était furieux et il allait tuer Jacob. C'est pourquoi Jacob devait fuir précipitamment en Mésopotamie, chez la famille de sa mère. C'était un long voyage, il devait partir comme ça, tout seul, vers des centaines de kilomètres, à pied, avec un bâton de marche et un peu d'huile. Et c'est lors de cette marche qu'il va avoir une vision grandiose. C'était la nuit, il était fatigué, découragé, il s'écroule, il s'endort profondément. Il a un rêve. Il voit une échelle immense appuyée sur la terre et qui montait jusqu'au ciel. En haut, il y avait Dieu qui s'appuyait sur le haut de l'échelle. Et sur l'échelle, il y avait une multitude d'anges qui descendaient et qui montaient sans cesse. Alors d'abord, Dieu a voulu montrer à Jacob par cette vision qu'il veillait sur lui, qu'il envoyait ses anges pour le protéger et que les anges portaient ses prières, les prières de Jacob, dans le ciel. C'est déjà encourageant, mais il y avait un sens encore plus mystérieux à cette vision. Et Jacob le sentait bien. Dès son réveil, il s'écrie « Terribilis est locus iste ». Que ce lieu est redoutable. C'est bien ici la maison de Dieu et la porte du ciel. Et puis il répand un peu d'huile sur la pierre pour consacrer un peu comme un autel, pour commémorer cette vision. Parce que cette vision a un sens profond. C'est une des figures les plus riches du mystère de l'incarnation du Verbe et de l'union hypostatique en Jésus, c'est-à-dire l'union des deux natures, humaine et divine, en une personne, la personne de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une échelle, justement? Donc une échelle, vous avez deux montants parallèles qui sont réunis de distance en distance par des barreaux horizontaux qui servent de marche pour monter ou descendre. Et de même, en fait, il y a donc pour plusieurs raisons, ça préfigure l'incarnation. On les verra en finissant avec la raison la plus profonde à la fin. D'abord, cette échelle fait penser à l'incarnation du Verbe, parce que l'incarnation s'est accomplie après une longue chaîne de générations, depuis Adam jusqu'à la Sainte Vierge, en passant par Noé, par Abraham, par la voie David, etc. Comme une échelle garnie d'innombrables échelons qui descendent. Une échelle à deux montants, un de chaque côté. Ce sont les deux motifs de l'incarnation selon saint Paul. La vérité et la miséricorde. Saint Paul dit aux Romains, « J'affirme en effet que le Christ a été ministre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, pour montrer la vérité de Dieu en accomplissant les promesses faites à leur Père, tandis que les gentils glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. » C'est-à-dire, Dieu s'est incarné pour montrer que les promesses qu'il avait faites aux Juifs étaient vraies et pour faire pure miséricorde aux gentils à qui il n'avait rien promis. Dans les psaumes, ce n'est pas pour rien que dans les psaumes des matines de Noël que nous avons récité de nouveau ce matin, parce que c'est l'octave, ce binôme vérité, miséricorde, revient par 10 fois, et ailleurs aussi dans l'office de Noël. Cette échelle montre aussi l'humilité du Verbe de Dieu en s'incarnant. Vous savez, le premier mystère joyeux, donc l'annonciation, l'incarnation du Verbe dans le sein de la Sainte Vierge, a pour fruit l'humilité. Voyons comment Dieu s'abaisse jusqu'à se faire homme. Et justement, les maîtres spirituels et mystiques, comme Saint Bernard ou Saint Benoît, comparent l'humilité à une échelle mystique par laquelle nous montons en vertu en descendant les degrés d'humilité. Plus on descend, plus on se rabaisse dans notre propre opinion, plus nous grandissons en sainteté et nous montons. Mais cette vision de l'échelle représente l'incarnation pour une raison encore plus profonde, c'est que Jésus est lui-même cette échelle qui descend jusqu'à la terre pour que les hommes puissent monter au ciel. Une échelle a une partie supérieure et une partie inférieure, une partie en haut et une partie en bas. Et de même, Jésus est une personne avec une nature divine supérieure et une nature humaine inférieure. Comme homme, il touche la terre, comme Dieu, il touche le ciel. Et ces deux natures, sans se confondre, forment une seule échelle, une seule personne. Sainte Catherine de Sienne appelait Jésus le pont. C'est la même idée. C'est le pont entre les hommes et Dieu. Placé entre Dieu et les hommes, ou pour mieux dire, étant à la fois Dieu et homme, Jésus est le médiateur parfait. Les pères de l'Église se plaisaient à relever cette convenance de l'incarnation, comme quoi il fallait les deux natures, humaines et divines, dans une seule personne, pour nous sauver. S'il n'était pas Dieu, il ne pouvait pas nous sauver. S'il n'était pas homme, il ne pouvait pas souffrir. Et Saint Léon en parle au matin de Noël. La propriété de l'une et de l'autre substance, de l'une et de l'autre nature, étant sauve et s'unissant en une seule personne, l'humilité est prise par la majesté, l'infirmité par la puissance, la mortalité par l'éternité, de sorte que, comme il convenait pour notre guérison, un seul et même médiateur entre Dieu et les hommes put, d'une part, mourir et de l'autre, ressusciter. Car s'il n'était pas Dieu véritable, il n'apporterait pas le remède, et s'il n'était pas homme véritable, il ne servirait pas de modèle. Un chrétien ne creuserait jamais assez ce grand mystère de l'incarnation. On peut passer toute sa vie à approfondir ce mystère de l'union hypostatique des deux natures en une personne. Sachez aussi qu'il y a des chrétiens qui sont morts, martyrs, pour défendre l'une ou l'autre de ces vérités. Parce qu'il y a toujours eu des hérétiques pour nier soit que Jésus était Dieu, soit qu'il était homme, etc. Donc, nous ne devons pas passer à côté de ces beautés en ce temps de Noël. C'est le temps où nous avons le plus de grâce pour méditer sur ces choses. Et pour ceux qui ne les connaissent pas encore, sachez que nous avons à la bibliothèque de près et puis dans la librairie les livres du don de Montléon qui expliquent le sens mystique de toutes ces figures de l'Ancien Testament. C'est une excellente lecture spirituelle, surtout en ce temps de Noël. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.